Benjamin Carré, Eric des Hauts-de-France, du côté d'Abbeville. Alors, en réaction à l'émission des jardiniers youtubeurs, je suis toujours surpris de voir que beaucoup de gens qui cultivent bio utilisent le rotophile pour entretenir leurs allées, ou bien là où ils ne passent pas la tondeuse. Alors, le rotophile, c'est un fil de nylon qui tourne à très grande vitesse et qui est extrêmement efficace pour faucher les herbes. Évidemment, il fragmente et à la fin, votre bobine se retrouve dans votre sol, quoi. Donc, en plus, si vous avez des poules qui picorent, je crois qu'on déverse 2 millions de tonnes de plastique par an en France avec les débroussailleuses. Alors, il y a des alternatives. On peut utiliser l'hélice à débroussailleuse en métal. On peut utiliser une bonne faucille forgée, une faux, une ou même, pourquoi pas. Enfin, bref, essayer de trouver des solutions pour pas répandre encore plus de plastique qu'on en a déjà. Voilà, c'était mon petit combat du jour. Je vous remercie. Au revoir.
Oui, bonjour, Noël de Béziers. Je réagis au message concernant le gaspillage. Il faudrait légiférer, réglementer tout ça, mais ce n'est pas parce que ces entreprises gaspillent que pour autant le citoyen doit, lui, ne pas participer à l'effort donc de la réduction de ce gaspillage. Quand je vois les multitudes de sacs plastiques que les gens utilisent uniquement pour mettre 2 tomates et qui ensuite iront directement à la poubelle, ensuite dans les océans et reviennent dans nos assiettes, ça fait des milliards et des milliards de mètres cubes de plastique. Donc cet effort de limiter le gaspillage doit être appliqué par tout le monde, pas seulement par certains. Merci, bonne journée.
Oui, bonjour, je m'appelle Bernard, j'habite dans les Deux-Sèvres, à côté de toi. J'entends votre émission actuellement et une dame parle de bâches plastique pour couvrir le sol. Il y a aussi la possibilité de poser des tôles ondulées en fer, même des tôles rouillées, des vieilles tôles rouillées qui ne servent plus à rien, posées sur le sol pendant un certain temps et elles peuvent être réutilisées ensuite. C'est un moyen autre que le plastique et qui fonctionne très bien, je l'ai utilisé. Voilà, à bientôt. Merci pour votre émission.
Oui, bonjour, Gilles de Mamoudzou à Mayotte. Je vous appelle pour vous dire qu'il y en a un peu marre de s'entendre dire sur les ondes de France Inter qu'il faut prendre l'avion avec élégance, comme nous y invite Air France. Non, je pense qu'il vaut mieux prendre l'avion avec un sentiment de honte, comme nous y invite Greta Thunberg. Merci, au revoir.
Il y avait donc du FlyXcam aujourd'hui dans le répondeur de la Terre au Carré, mais aussi du rotophile, du plastique et de la tôle ondulée. Et si vous souhaitez vous aussi apporter votre pièce à notre atelier radiophonique, eh bien n'hésitez pas à nous appeler bien sûr au 01 56 40 45 45. Il s'agit de la plus grande structure vivante existant sur Terre. On peut même, paraît-il, la voir depuis la Lune. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la grande barrière de corail serait aujourd'hui menacée de disparition. Ces dernières années, sa santé s'est brusquement dégradée au point qu'elle pourrait être inscrite dans quelques jours sur la liste des sites en péril. 91% du corail a en effet subi une forme de blanchissement qualifiée d'extrême à certains endroits. Alors, quelle est la situation sur place? Quelles sont les solutions pour protéger le corail? C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré avec nos invités. En studio avec nous, Pascal Joanneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe spécialiste des récifs coralliens, ancienne directrice des expéditions scientifiques du Muséum. Vous avez également été la directrice de l'aquarium de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et puis nous sommes en duplex de Tahiti avec vous, Laetitia Edouin, si tout fonctionne bien. Bonjour.
Bonjour.
Et ça marche, Tahiti, où il est actuellement 2h quasiment 9 du matin. Merci d'être resté éveillé pour nous. Vous êtes chargé de recherche CNRS et vous travaillez au CRIOB à Montréal, le centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Et vous êtes aussi l'autrice du livre Étonnant récif, les écosystèmes coralliens, paru au CNRS édition. On vous retrouve dans un instant et avec les auditeurs, on a beaucoup de questions à vous poser donc sur le corail et les récifs coralliens. Pour nous retrouver donc les messages sur la page de l'émission, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Le deuil des éléphants, une fable venue d'Inde, fable scientifique à suivre.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Anna Massardier. Ronan Mahé est aux commandes.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Un seul coup d'œil suffit pour évaluer l'état de santé d'un récif corallien. Les couleurs sont comme un thermomètre. Quand elles sont vives, extravagantes, le corail est en pleine forme. À cause du réchauffement climatique, la température des océans augmente. Le corail étouffe, il blanchit.
TF1 en février dernier, que se passe-t-il sur la grande barrière de corail? C'est ce que nous allons vous raconter cet après-midi avec nos invités Pascal Joanneau, donc avec nous à Paris, Laetitia Edouard en duplex de Tahiti. C'est vrai que depuis quelques années, on ne cesse d'entendre parler du blanchissement de la grande barrière et le dernier épisode en date toucherait 91% de cet écosystème unique au monde. Dans certains cas, comme à Magnetic Island dans la baie de Cleveland en Australie, on qualifie même donc le phénomène d'extrême. Laetitia Edouard, donc les titres de la presse étaient très alarmistes ces derniers jours concernant l'ampleur de ce blanchissement. Le sont-ils à juste titre, vous qui êtes sur place et qui étudiez donc entre autres la Grande Barrière?
Oui, je pense qu'effectivement c'est alarmant en fait ce qui se passe, notamment parce que cette année on est dans ce qu'on appelle une année plutôt froide, c'est les années La Nina, où du coup normalement c'est pas des années où on s'attend à avoir des épisodes de blanchissement parce que la température de l'eau elle est censée être plus froide en quelque sorte que d'habitude, donc les coraux devraient être protégés. Et là c'est effectivement assez rare d'observer des épisodes de blanchissement durant ces années-là. Et du coup ça devient inquiétant parce qu'on a l'impression qu'elle a jamais de cette grande barrière, et que finalement plus les années passent, plus finalement ces épisodes ils deviennent fréquents et potentiellement ils pourraient devenir annuels, comme ce que prédit le GIEC finalement.
Alors un petit point de géographie quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans le Pacifique, mais vous là vous êtes à Tahiti, la grande barrière de corail c'est l'Australie, donc vous êtes à combien de kilomètres? Est-ce que vous avez l'occasion d'y aller régulièrement pour plonger ou pas?
Non, alors moi c'est vrai que moi je suis plutôt focalisée sur la Polynésie française. Par contre j'ai des collaborateurs en Australie et puis de toute façon d'un point de vue scientifique j'ai envie de dire que on scrute vraiment en détail tous les rapports qui sortent sur l'état de santé de cette grande barrière parce que comme elle est extrêmement étudiée, elle est aussi extrêmement protégée. Il y a beaucoup d'actions de conservation, mais finalement elle est un petit peu la vitrine des récifs coralliens et quand elle va mal, on se dit qu'il y a d'autres récifs aussi qui vont aussi aller mal, mais qu'on ne le sait pas forcément parce qu'ils sont moins étudiés, parce qu'ils n'ont pas l'ampleur ils ne sont pas tous les icônes des récifs coralliens.
Pascal Joanneau, vous avez plongé, je crois, une ou deux fois
sur la Grande Barrière. La dernière fois, c'était en 2014.
Ouais. Qu'est-ce qu'on voit quand on plonge là-bas exactement?
Ce qu'on voit sur certains autres récifs coralliens, notamment dans nos collectivités d'outre-mer aussi, mais on voit des récifs qui étaient... Là où j'ai plongé, c'était vraiment des récifs en bonne santé. Il y avait pas mal de méduses aussi. Mais là, en effet, la Grande Barrière a des épisodes de blanchissement depuis 2015, à répétition, c'est vrai. Alors pourquoi on en parle autant? C'est parce que c'est en effet la plus grande barrière que l'on voit de la Lune, d'ailleurs.
Paraît-il,
j'y suis jamais allée sur la Lune. 2300 km de long. Alors c'est sûr que les meilleures informations viendraient de l'autorité de la Grande Barrière qui, elle, surveille cette Grande Barrière en permanence. Donc... En effet, là, il y a un épisode qui est important.
Quand on parle de corail, on parle de quoi alors exactement? Oui, exactement, parce qu'on parle de récif corallien, il y a le corail en lui-même.
Alors, le socle, si vous voulez, du récif corallien, ce sont les coraux. Alors, nous, bonjour Laetitia d'ailleurs, à distance, nous les scientifiques spécialistes des récifs coralliens, le mot scientifique, ce sont les scléractinières. Souvent, on emploie le mot corail un petit peu à tort et à travers. Ce dont nous allons parler, Laetitia et moi, ce sont les scléractinières, ceux qui construisent le récif. Ce sont des animaux qui appartiennent à un grand groupe qu'on appelle les cnidaires. Ils ont tous en commun des cellules urticantes, qu'on appelle les cnidoblastes. Et ils ont aussi, je vous fais ça assez rapidement, et ils ont aussi, ils vivent en association pour la plupart, en tout cas pour ceux qui sont des coraux qui sont zooxanthellés, c'est-à-dire qui ont des symbioses, une symbiose avec des algues symbiotiques qu'on appelle les zooxanthelles. Donc la plupart des récifs coralliens qui construisent, la plupart des coraux qui construisent le récif corallien, donc sont zooxanthellés. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un phénomène de blanchissement. Ouais. Alors, si vous permettez, pour vos auditeurs, on dit bien blanchissement.
Et pas blanchiment, hein, bien
oui, blanchissement. Oui, ça, on regarde pour l'argent, voilà. C'est bien blanchissement, et si les journalistes pouvaient l'entendre aussi et le faire, parce que c'est vrai que, bon, y a, déjà qu'on a des abus de langage avec le mot corail, si on peut éviter sur blanchissement. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce blanchissement? C'est une sorte de divorce, si vous voulez, entre les algues qui sont dans l'animal corail, hein, dans ce qu'on appelle l'endoderme, bon, et il y a un stress. Ça peut être un stress thermique, en l'occurrence ici, mais ça peut être aussi un stress lié à des pollutions, et ça peut être un mix des deux.
Ouais.
Et alors, ce qui se passe à ce moment-là, il y a
un divorce, vous dites.
Moi, je dis que c'est un rejet entre l'algue et le corail.
Il rejette l'algue et il a...
Voilà. Et bon, bah, donc, les algues sortent. Mmh. Le corail, alors, tout à l'heure, dans le petit enregistrement qu'on entendait, on dit qu'on voit que les coraux ont des couleurs magnifiques quand ils sont vivants. C'est vrai. Mais malheureusement, quand ils sont en train de blanchir, c'est un autre paysage qui n'est pas forcément le plus catastrophique au départ. C'est-à-dire que, moi, pour l'avoir vu en évolution, on voit des coraux qui commencent à blanchir, justement, et là, on voit des coraux qui sont presque fluorescents.
Ouais, c'est la fin, quasiment, d'ailleurs,
voilà,
cet épisode-là.
Voilà, ça, c'est, ouais. C'est le chant du
signe.
Le
chant du signe,
hein,
du corail,
et,
ouais.
Et c'est malheureux de le dire, mais c'est vrai que c'est magnifique, parce que les coraux sont un peu roses, un peu bleus, fluorescents. C'est,
mais il ne faut pas s'en réjouir.
Mais,
pour autant,
oh, surtout pas, parce que là, ils ne laissent apparaître que leur pigments animaux. Mmh. Et quand on en est là,
il
est trop, il est bien trop tard et ils vont mourir.
Laetitia Edouin, justement, une précision, parce qu'on parle d'un nouvel épisode là, de blanchissement, et c'est 91% sur l'ensemble de la Grande Barrière par rapport aux épisodes précédents. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que les coraux peuvent se rétablir si les conditions, justement, s'améliorent? Ou est-ce que c'est une accumulation, finalement, par rapport à l'état déjà très, très abîmé, hein, des coraux?
Oui, alors là, effectivement, c'est 91% de coraux blanchis. Et ce qu'on espère, et ce que les scientifiques pensent, hein, sur ceux qui ont fait les évaluations en Australie, c'est que comme on est sur un événement quand même de température, d'anomalie température qui n'est pas très fort, eh bien on espère que les coraux blanchis vont s'en remettre. Parce que comme l'expliquait Pascal, en fait, il y a un divorce entre le corail et l'algue. Mais finalement, si ce stress de température ne dure pas trop longtemps, eh bien les coraux vont pouvoir récupérer les algues et finalement retrouver leur couleur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un corail blanchi, c'est un corail qui est malade, c'est un corail qui est stressé, mais c'est pas un corail qui est mort. Il peut s'en remettre. Voilà.
Est-ce que l'accumulation d'épisodes de blanchissement peut quand même affaiblir et faire qu'ils s'en remettent un petit peu moins bien à chaque fois?
Alors oui et non, ça va dépendre de certaines espèces et de certains genres coralliens, parce que des fois, l'accumulation des épisodes comme ça permet aussi ce qu'on appelle au corail, en quelque sorte, de mieux résister aux futurs épisodes de blanchissement. Ceux qui ont survécu, du moins. Ouais. Il y en a qui vont mourir, donc cela, on les aura perdus. Mais finalement, on observe aussi finalement qu'en quelque sorte, certains épisodes permettent d'entraîner certains coraux finalement à faire face à d'autres épisodes futurs. Mais après, tout dépend aussi finalement de l'intensité de l'épisode futur. Ouais. Voilà.
Pascal Joanneau.
Et donc là, on pense que les températures sont pas trop fortes, finalement l'anomalie est pas trop forte. Donc ce qu'on espère, c'est que finalement on va avoir peu de mortalité qui va suivre après cet épisode de blanchissement. Mais ça, on le saura que dans à peu près 4-5 mois, en fait. Il faut vraiment attendre de savoir comment ces coraux blanchis vont être capables de se remettre.
Il y a une grosse alerte, hein, quand
oui,
même.
Oui, une grosse alerte. Si je peux me permettre, quand j'étais directrice de l'aquarium à Nouméa, évidemment, ça, on le vivait, de l'aquarium est une espèce de diverticule du lagon, c'est de l'eau naturelle, hein, ouais. et la température absolument ambiante. Et on a assisté à un phénomène de blanchissement dans tous les bacs de l'aquarium, comme on avait eu aussi en 91. Enfin, c'était en 98 en mer. Et alors, dans un des aquariums, ça c'était absolument assez intéressant à voir, c'est qu'on a des espèces, c'est pour ça que je vais dans le sens de Laetitia, il y a des espèces de coraux qui blanchissaient, donc qui allaient vers, qui étaient stressés par l'augmentation de la température, et quelques-uns, alors ça c'était assez étonnant, sincèrement, quelques-uns qui avaient l'air de récupérer des oxantelles et qui étaient eux très en forme.
Donc au même endroit, finalement.
Dans un bac, vous imaginez, dans un bac de 1200 litres. C'est
et petit. Comment on l'expliquait, alors?
Voilà.
Mystère pour l'instant.
Pour moi, en tout cas, c'était un mystère.
Donc c'est un objet d'étude pour les scientifiques, j'imagine, pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Mais c'est vrai que ça peut être réversible.
Mais ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein.
Oui.
Allez, on en parle avec vous dans un instant. Et puis, nous verrons justement comment est-ce qu'on peut essayer de remettre un petit peu ces récifs coralliens au meilleur de leur forme avec vos messages.
Trying to bring out the fabulous, 'cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel.
Et c'était Lizzo sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Je me rappelle que j'ai pleuré dans mon masque. Même si j'étudie le réchauffement climatique, je ne pensais pas que je pourrais voir un jour ses effets à ce point. C'est très triste de voir ça.
La voix du biologiste marin José Ricardo Paola, c'était en juin 2021 sur France 24. Il parlait justement de la grande barrière australienne. Et on en discute avec Laetitia Edouin qui est en duplex avec nous de Tahiti. Et puis Pascal Joanneau en studio avec nous à Paris. Vous êtes à combien de kilomètres, Laetitia Edouin, finalement, de la grande barrière depuis Tahiti? Il faut parcourir combien de, pour y arriver le plus vite possible?
9 heures. Ouais, c'est long.
9 heures, non?
Il faut
à peu près 8 à 9 heures.
Voilà, c'est ça. Donc c'est extrêmement loin. Hein. Vous êtes.
On n'est pas juste à côté. Ouais.
C'est ça, mais un peu plus près de nous quand même. Alors on en parle donc cet après-midi de ce phénomène de blanchissement. Les causes, donc on en parlait tout à l'heure, réchauffement des eaux de surface, Laetitia Edouin, les activités humaines, ça c'est vraiment les deux composantes principales?
Oui, je pense que ça, c'est ce qu'il faut vraiment bien comprendre, en fait. C'est que c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation, finalement, de ces émissions qu'on n'arrive pas à arrêter, qui font que ça génère, finalement, ce réchauffement climatique global. Et ce réchauffement climatique global qui crée ces anomalies de température et qui, finalement, qui génère ces épisodes de blanchissement. Donc, la principale solution et la principale action globale et internationale qu'il faut faire, c'est vraiment réussir à réduire nos émissions de CO2 si on veut arriver aider à préserver, à limiter les dégâts, j'ai envie de dire, parce qu'on est déjà sur des scénarios où on sait quasiment que les scénarios qu'on a prévus de réchauffement à 1,5 degré, ben finalement, on est quasi sûr déjà de les dépasser. Et les experts du GIEC, hein, qui sont le groupe international d'experts sur le climat, ben ils nous disent que si on arrive à 1,5 degré de réchauffement, on peut perdre de 70 à 90% des coraux. Et si on se réchauffe de 2 degrés, on va perdre 99%. Donc là, le principal problème, c'est vraiment ça. Après, on sait qu'il y a d'autres actions locales qu'on peut faire, parce que c'est vrai que souvent, localement, on se sent un peu démuni. Et du coup, il y a d'autres actions locales qui doivent être faites. Et c'est notamment tout ce qui est les pollutions locales, c'est les rejets de sédiments, c'est les fertilisants qu'on va remettre. C'est en quelque sorte favoriser d'avoir une qualité de l'eau qui soit presque irréprochable, pour qu'en quelque sorte, les coraux n'aient qu'à lutter contre le réchauffement climatique et ils ne soient pas non plus stressés par d'autres causes locales.
Je crois qu'en Australie, il y a des gros problèmes avec les fertilisants utilisés justement par les agriculteurs, les éleveurs, pour faire pousser l'herbe et nourrir le bétail australien, puisque ces fertilisants, Pascal Joanneau, se retrouvent in fine hein, dans ouais. les océans.
Oui, oui, tout
donc,
à fait.
Dans la grande barrière de corail.
Tous les intrants agricoles viennent en effet augmenter ce stress qui est lié au récif corallien. Et ce qu'a dit Laetitia, elle a tout dit, c'est vrai qu'il faut, il y a deux choses. Il y a les actions globales, donc vous, nous, tous, on doit vraiment essayer de réduire les gaz à effet de serre. Et puis après, il y a les actions locales qui peuvent être et qui sont souvent portées, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, par une initiative dans nos collectivités qui est l'initiative française pour les récifs coralliens, l'IFRECOR.
Sur franceinter.fr, Bénédicte demande si, enfin, nous dit que des études montrent que les crèmes solaires contribuent aussi à la destruction des coraux dans le monde. Vous le confirmez, Pascal?
Oui, complètement. Les crèmes solaires déposent un film lipidique sur et gras donc sur l'eau et les coraux peuvent pas se sauver hein, donc ils peuvent pas éviter ce qui va leur tomber dessus. Et donc, à la fois, en effet, les crèmes solaires peuvent intervenir, et le sédiment, tout ce qui est sédimentation, donc les coraux ne pouvant pas se sauver, eh bien ils peuvent être étouffés par des intrants, quels que soient les polluants. Oui, cette auditrice a raison, et je sais bien, on a eu un partenariat avec à l'IFRECOR, avec un fabricant de crème solaire pour essayer justement de ne qui n'affecte pas les coraux, mais bon.
Sauf qu'il y a un gros problème avec le tourisme, hein, puisque c'est une source de revenus. La grande barrière de corail en Australie, je crois que c'est plus de 4 milliards de dollars par an, rien que pour aller voir. Donc ça veut dire que ça draine énormément de monde. Et donc, cette crème solaire, elle est directement liée à ça. Hein.
Exactement. Et donc, en Australie, je crois même qu'il y a près de 15 millions de plongeurs. Laetitia, tu me dis si je me trompe, mais c'est très, très important. Mais ça n'est pas que la grande barrière, c'est tous les récifs coralliens qui attire évidemment, qui nous attire tous, les plongeurs.
Laetitia Hédouin, évidemment, il y a un problème de temporalité parce que vous parlez des émissions de gaz à effet de serre, mais le temps qu'on arrive à les baisser et qu'il y ait vraiment des effets sur les coraux, il va s'écouler des décennies et des décennies, c'est dans le meilleur des cas évidemment. Donc il y a des choses à faire en attendant des mesures d'urgence, j'allais dire, à mener.
Bah alors c'est vrai que la première mesure en général nous on va recommander, c'est vraiment d'améliorer cette qualité de l'eau. Après, en termes de recherche plus sur le côté biologie et écologie, c'est vrai que on développe depuis plusieurs années maintenant des approches où on essaye de rendre par exemple les coraux plus tolérants finalement à l'augmentation de la température. Parce que on sait qu'il y a certaines algues qui finalement sont capables de résister à cette augmentation de température. Donc on regarde si on peut inoculer les coraux avec cette algue résistante, on regarde s'ils arrivent à la garder, parce qu'ils ont quand même un partenariat qui est très spécifique, et le corail est un organisme assez complexe, et c'est beaucoup plus difficile en quelque sorte que ce qu'on avait prévu. On essaye aussi de travailler sur les jeunes stades de vie, sur les ovocytes coralliens, sur les spermatozoïdes, sur les larves, parce que c'est des jeunes stades qui sont plus flexibles, plus plastiques, que pour justement essayer de les entraîner à ces anomalies de température, et pareil pour essayer d'avoir des colonies coralliennes qui en quelque sorte résisteront aux futurs épisodes de blanchissement. Et c'est comme ça qu'on se dit qu'on peut essayer de rénover le récif corallien avec des coraux qui seront à même de résister à ces changements climatiques.
Et justement, est-ce qu'il y en a qui résistent déjà mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a certaines
espèces
hein, tout simplement, qui sont plus résistantes que d'autres, Laetitia Hédouin?
Oui, alors c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a certains genres coralliens, comme les pourites, qui sont ces coraux massifs, qui sont plus résistants à l'augmentation de la température que les acropora. Sauf que les acropora, c'est finalement des coraux qui sont très jolis, qui ont des structures qui sont très fines, qui ont beaucoup de branches, ou alors qui forment des plateaux, et qui donnent en quelque sorte toute la complexité, toute la structure au récif corallien. Et ce qu'on sait, c'est que plus le récif corallien va être structuré, plus il va être différent en trois dimensions, plus il va abriter de la biodiversité, plus il va abriter des poissons, des mollusques. Et c'est ça qui fait la vraie richesse du récif corallien, c'est sa biodiversité, c'est ses interactions. Et donc, si on arrive à un récif qui est composé uniquement de ces patates coralliennes, eh bien, on va perdre la biodiversité parce qu'il y a toute une partie des organismes qui ne pourront plus se cacher dans le récif. Et donc, le récif ne fonctionnera plus pareil. Et du coup, on va commencer à altérer ce qu'on appelle les services écosystémiques que nous rendent les récifs coralliens et dont il y a plus d'un demi-milliard de personnes qui dépendent. Donc, c'est vraiment là tout l'enjeu. C'est que même s'il y a des coraux qui résistent, eh bien, ceux-là ne vont pas suffire à maintenir les services dont l'humain a besoin.
Allez, on y reviendra avec vous dans un instant. Est-ce que c'est la mer qu'on entend? Parce que vous êtes à Tahiti,
j'ai
je rappelle.
J'ai l'impression qu'il y a les vagues.
Mais oui, c'est assez doux.
Oui, c'est la mer.
C'est assez doux à l'oreille. La mer à 2h30 du matin, donc, chez vous à Tahiti, Laetitia Edouin. Allez, restez avec nous, parce que dans un instant, on entendra le son des coraux. On s'est réveillé d'ailleurs avec ce matin, grâce à Sophie Bécherel, dans le journal de 7h sur France Inter. Et justement, ce son des coraux a été enregistré chez vous, à Tahiti, à Moréa. Et puis, on verra aussi qu'il y a quand même de très bonnes nouvelles, puisqu'on a découvert très récemment des coraux en profondeur qui étaient préservés de toute pollution. Donc il y a quand même des choses positives à raconter cet après-midi. On attend vos questions sur la page de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
14h31, on passe au vert, Camille Cronier.
Et vous n'allez pas voir, mais je vais vous décrire ce qui se passe sur cette vidéo.
Alors,
nous sommes à Tumkur, en plein milieu de l'Inde. Et des habitants filment une éléphante en train de pousser avec sa trompe le corps de son petit qui est mort. Elle le touche comme ça pendant 24 heures, puis d'autres éléphants, 12 exactement, arrivent et se réunissent derrière le petit cadavre et la mère. La scène fait franchement peine à voir, mais pourrait être une preuve d'une forme de deuil chez les pachydermes. C'est ce qu'écrivent en tout cas deux chercheurs indiens dans la revue Royal Society, étude pour laquelle ils ont utilisé, figurez-vous, des vidéos sur YouTube.
Indian Forest is so dense.
La forêt indienne est tellement dense qu'on ne peut pas toujours voir de nos yeux, explique Sanjita Sharma. Donc on s'est servi de YouTube et des réseaux sociaux. 39 vidéos pour mieux comprendre les éléphants d'Asie.
On essaie de catégoriser les comportements anatologiques, comment les éléphants réagissent. On sait que ce sont des animaux très sociaux, donc qu'arrive-t-il aux éléphants quand un membre de la famille meurt? On veut comprendre comment l'impact psychologique sur les survivants agit. Et nous avons constaté que les éléphants sont curieux quand un autre meurt. Ils essaient littéralement de l'aider.
Dans les vidéos, on voit des individus se rassembler autour d'un mort ou une mère porter carrément avec sa trompe le cadavre de son bébé. Nachiketa Sharma, l'autre spécialiste auteur de l'étude, n'avait jamais vu ça. C'est le comportement qui nous a le plus marqué, dit-il. Certains primates portent leurs amis ou bébés morts, mais ça n'avait jamais été relevé auparavant. Mais faut-il pour autant parler de deuil? Fabienne Delfour, éthologue à l'université de Paris 13, qui hier encore faisait une conférence sur le deuil des cétacés, reste très prudente avec ce mot.
On a du mal vraiment à caler la même définition de deuil chez les animaux que le deuil chez les humains. On voit bien, même chez les humains, on a 10 000 façons de vivre nos deuils. Chez les animaux, c'est fort probable qu'ils ressentent une absence et un manque. Mais de là à savoir que l'autre est décédé, savoir si l'éléphant est triste parce que il a compris que son compagnon était mort, ça, je sais pas.
Mais il est clair que l'absence peut engendrer des émotions tristes chez les mammifères en particulier. Sanjita Sharma, elle, assume le mot « deuil » utilisé dans certains articles qui citent son étude.
Deuil, ça veut dire attirer l'attention. Dans un article scientifique, on ne peut pas utiliser ce jargon. Mais pour sensibiliser le public, je trouve que le mot est parfait.
Confirmation de son collègue Nachiketa.
I feel that to understand some behaviors, it is good to be a little anthropomorphic.
Voilà, il dit pour comprendre certains comportements, c'est bien d'être un peu anthropomorphique. Alors l'enjeu derrière tout ça, c'est d'étudier en quoi certains événements, donc comme la mort d'un membre du groupe, peuvent menacer l'espèce, quels impacts psychologiques, puis potentiellement physiologiques, avec donc tout ce qui peut en découler. Un autre chercheur américain, Joss Plotnick, du Hunter College à New York, a publié déjà plusieurs études sur les comportements des éléphants et l'empathie dont ils font preuve.
Par exemple, ils s'aident quand ils tombent dans de la boue et coopèrent pour défendre leurs jeunes et la famille de prédateurs potentiels. C'est parce que les éléphants comptent sur leur groupe social au quotidien que l'empathie joue probablement un rôle important dans leur survie.
Et ce n'est pas valable que pour les éléphants. Joss Plotnick l'affirme. La sociabilité et le comportement social qu'on connaît chez différentes espèces est une façon d'aider les animaux à s'adapter et même à évoluer dans des environnements complexes. De nombreuses espèces ne survivraient pas dans ces environnements si elles ne coopéraient pas dans des groupes sociaux où elles s'entraident. Et je ne sais pas vous, mais ces mots ont résonné quand même quand il me les a dit. Comme quoi les éléphants peuvent aussi nous apprendre et faire comprendre des choses à nous, animaux, humains.
Camille Cronier, on est passé au vert comme tous les jours et c'est à réécouter sur la page de La Terre au Carré.
Fabienne, Pascal Joanneau, pardon, j'étais sur Fabienne Delphos. Pascal Joanneau, est-ce que en mer, vous qui êtes beaucoup sous l'eau, vous avez pu observer des comportements comme ça un petit peu particuliers chez les poissons par exemple?
Alors chez les poissons, chez les poissons et chez les mammifères. Alors chez les poissons, un jour j'ai en effet eu la chance en Nouvelle-Calédonie de tomber sur une parade entre deux poissons ballons. Alors, vous voyez, les poissons ballons, c'est plutôt sympathique hein, comme poisson. Et la parade était formidable. Ils dansaient autour, l'un autour de l'autre. C'était ça nous remet un peu les pieds sur terre. Il n'y a pas que nous.
Mais
sur
comment vous l'avez interprété alors?
Ben c'était une parade nuptiale, c'est-à-dire qu'il y avait le mâle qui cherchait à courtiser la femelle. Mais si vous voulez, on le voit pas si fréquemment que ça. On le voit très couramment avec les poissons clowns, avec des poissons qu'on connaît bien. Mais sur les poissons ballons, d'abord il y avait une bouille assez sympa, et puis c'était ce comportement. Et sinon, il y a eu un autre comportement. Et alors là, c'était justement à Tahiti. C'était assez intéressant. On va pour plonger en apnée vers une baleine qui avait son baleineau. Et comme tous les petits, les baleineaux, comme tous les petits enfants...
Ils ont envie de jouer.
Ils ont envie de... Non, mais ils sont curieux. Mm-hmm. Donc, ils ont vu ces espèces de toutes petites espèces que nous sommes, parce qu'à côté, on ne représente pas grand-chose au point de vue taille, et avec nos palmes. Et donc, il est venu vers nous. Et à ce moment-là, c'était extrêmement intéressant de voir la mère qui, très calmement, est venue vers nous avec ses ailes, et enfin ses nageoires, mais qu'on a appelées des ailes, et qui a pris tout tranquillement son petit, là, de dire, bon, toi, tu reviens vers moi.
Mais ça fait comprendre,
quand même. Et ça fait comprendre que, bon, ben voilà, c'est le petit, donc on s'approche pas du petit, et... En effet, il y a eu une relation, c'était formidable à voir, parce que c'était tout en douceur de la part de la baleine, mais c'était très ferme et sérieux.
Allez, on revient sur le terrain des coraux avec vous dans un instant, et quelques messages pour vous.
Ego, c'est mérité, si je suis dans le périmètre. Je les regarde en face, je leur dis la vérité. J'ai bu du Henny, babe, on m'a dit RIP. J'ai un truc noir dans le casque, Igo s'est vérifié. On est que de passage, mais faire aux ambiances dans le classe A. On croisait des ripoux, équipe de skin dans le bazar. On est que de passage, mais si ça arrive dans le Viano. Dans la zone avec Mehdi, je fais de la guitare, de la basse et du piano. Quand personne ne peut soigner tes problèmes. Trop souvent déçu par les mêmes personnes. T'es devenu dur avec le procès. C'est devenu compliqué de se faire confiance. On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? On n'est que de passage. On n'est que de passage. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? On n'est que de passage, on n'est que de passage. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles?
Passage. C'était Sopico.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Ce que l'on entend là, c'est un récif corallien en pleine santé. Plus il y a de bruit de poissons et d'autres organismes, et plus ils sont variés, meilleur est l'état du corail. Une preuve apportée dès 2015 sur le récif de Moréa par les chercheurs du CRIOB, mais il reste beaucoup à étudier, selon Frédéric Bertucci, chercheur au CRIOB.
Il y a beaucoup d'études qui sont portées sur les sons produits par les poissons, mais on sait encore très peu, par exemple, sur les sons produits par tout ce qui est invertébré. Ça peut être les oursins, les crevettes, les crabes, ce qu'on appelle la faune cryptique, puisqu'elle vit cachée, on la voit pas, mais par contre on l'entend. Et c'est d'ailleurs la source de son qui domine les récifs coralliens.
Voilà, le son des coraux. C'était ce matin dans le journal de 7h, reportage de Sophie Bécherel et Laetitia Edouin. Ben, ça se passait chez vous finalement, d'où l'intérêt non seulement d'écouter les récifs coralliens, mais aussi d'évaluer la pollution sonore engendrée par les activités humaines, parce que c'est le sens de toutes ces recherches, hein, je crois.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, tout ce qui est l'acoustique du récif corallien sert à deux choses. À la fois, maintenant, on peut l'utiliser en quelque sorte comme un proxy de la biodiversité. Et donc, ça nous permet de savoir à quel point l'écosystème est diversifié parce qu'il va y avoir des sons différents, des fréquences différentes, des intensités différentes. Et à la fois, ça permet aussi de caractériser l'impact sonore anthropique que vont avoir les bateaux ou des constructions, etc. Et à quel point ça va déranger la vie sur le récif. Parce qu'il y a déjà des études qui montrent que la pollution sonore peut impacter le cycle de vie des organismes et perturber le bon fonctionnement du récif corallien. Donc, on pollue vraiment l'océan de différentes manières. On a même des études maintenant qui regardent la pollution lumineuse. Et c'est pareil, ça perturbe finalement le cycle des organismes lorsqu'il y a des lumières qui sont trop intenses et ça peut décaler les périodes de ponte. Donc aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est le son et l'acoustique dans les récifs coralliens, c'est des recherches qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement importantes à développer.
Pascal Joanneau, avant de passer aux questions des auditeurs, est-ce qu'on sait justement si cette pollution sonore a des effets sur la reproduction, par exemple, des coraux?
Elle a certainement... Alors, il y a eu une étude, une thèse qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Simon Elise en 2019. Donc, vous voyez, c'est récent, c'est une thèse qui a été appuyée par l'IFRECOR et qui essaye de diagnostiquer justement l'état de santé du récif. Il a fait 31 stations en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et puis à Europa, dans les îles Éparses. Et on pense que certains milieux... quand le milieu est riche en sons naturels, je ne vous parle pas des pollutions sonores liées à nous, eh bien, certainement, les larves de corail ont l'air d'aller plus vers des récifs qui sont sonores et en bonne santé que dans des récifs, que dans des zones où le son ne diagnostique pas un récif en bonne santé.
Donc, il y a une corrélation.
Il faut être prudent. C'est quand même
des
recherches récentes, parce que ça date de 2010 et là 2019 cette thèse. Là maintenant au CRIOB, donc ça avance lentement, mais bon, c'est un bon espoir parce qu'en fait on se dit aussi peut-être qu'avec un hydrophone, en simplement descendant un hydrophone, en sondant comme ça, on peut peut-être voir l'état des récifs. Alors qu'à mon époque, on essayait avec des imageries satellitaires, avec de la photo aérienne dans les années 90, et peut-être que ce sera finalement assez facile de voir l'état d'un récif grâce à ça.
Un petit rappel rapide pour Patrick sur franceinter.fr qui demande si le corail est un animal ou végétal.
C'est un animal qui appartient au grand groupe des cnidaires, et je vous invite à lire ce que sont les cnidaires. Ce sont donc des animaux assez, entre guillemets, primitifs, mais ce sont des animaux.
Mais il n'y a pas de mixte du tout entre le minéral, le végétal, c'est vraiment le monde animal.
Alors ce que je dis toujours, c'est que le corail est un animal qui s'associe à du végétal pour construire du minéral qui est son squelette calcaire.
Donc l'algue dont vous parliez par exemple
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, les dentelles, voilà. Et c'est la symbiose parfaite. Et le corail s'abrite, nous on a un squelette interne, eux ils ont un exosquelette et donc ils s'abritent dans ce squelette.
Une question aussi de Valérie Laetitia Edouin par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la résistance de certains coraux. Valérie demande si le réchauffement de l'eau malheureusement dure, est-ce qu'en fait il n'y aurait pas certains coraux qui pourraient muter et finalement donc comme vous le disiez s'habituer à leurs nouvelles conditions de vie?
Alors si, ça fait vraiment partie, j'ai envie de dire, des espoirs que nous avons en tant que scientifiques, que ben, y a certaines espèces coralliennes qui vont arriver en quelque sorte à s'acclimater à ces futures conditions. Par contre, ce qu'on sait, et le problème d'aujourd'hui, de cette crise climatique, c'est que le réchauffement est en quelque sorte trop rapide pour permettre à l'évolution naturelle de se faire. Donc du coup, il faut laisser le temps aux organismes de s'acclimater, il faut leur laisser le temps de s'adapter pour vivre dans des conditions qui sont plus hostiles que la normale. Et c'est tout le problème du réchauffement climatique et de la période dans laquelle nous sommes, c'est qu'en fait, c'est la vitesse du changement qui est vraiment problématique pour les organismes. Donc oui, on a en quelque sorte un peu d'espoir que certaines espèces vont y arriver ou qu'on va arriver à sélectionner les meilleures, mais on est quand même aussi très inquiet à cause de cette vitesse de changement qui peut finalement perturber en quelque sorte la manière dont ils seront capables d'évoluer.
Laetitia Edouin, très rapidement, l'UNESCO classera peut-être la Grande Barrière sur la liste des patrimoines en péril, donc là dans quelques jours, est-ce que ça pourrait vraiment faire bouger les choses ou pas, ce classement, s'il est validé?
Alors, j'espère, mais c'est vrai que finalement, à chaque fois, on se dit jusqu'où faut-il aller pour qu'on arrive vraiment à faire bouger les choses. À chaque fois qu'on a des nouveaux rapports, c'est toujours plus accablant, plus triste, plus pessimiste. Alors voilà, là, c'est vrai que si on classe la Grande Barrière vraiment dans une zone comme ça, peut-être que voilà, on va arriver à mobiliser et à faire réagir les gens. J'ai envie de dire, c'est un peu dommage de devoir en arriver là.
Mais est-ce que le
si
changement
ça fait réagir?
Est-ce que le changement de Premier ministre, pardon, australien, là, il y a quelques jours, peut aussi avoir une influence sur la gestion de cette Grande Barrière de corail?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, voilà, localement, l'Australie a une politique qui est la sienne, fait sur son territoire ce qu'elle fait, mais le problème du blanchissement corallien, c'est un problème global. Donc, c'est vraiment un problème d'émission globale, et c'est pas que l'Australie qui pourra régler ce problème-là. C'est vraiment des accords internationaux qui viendront le régler. Alors, effectivement, du coup, de changer de Premier ministre, c'est mieux, mais il faut vraiment que ce soit au niveau de la COP qu'il y ait des accords qui soient mis en place et qui soient effectifs et qu'on suive les recommandations, qu'on s'en donne les moyens, voilà. Donc c'est juste avec une action globale, en quelque sorte, qu'on arrivera à régler, du moins à limiter les dégâts en termes de blanchissement et de perte de biodiversité.
Le progressiste Anthony Albanese qui succède donc au conservateur Scott Morrison avec des annonces déjà assez ambitieuses, en tout cas sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il faudra voir si c'est suivi d'effet, évidemment.
Pascal Jeannot. En effet, et puis bon, Laetitia, je suis tout à fait ce que Laetitia vient de dire, tout à fait, c'est des actions à l'échelle globale, mais devant le péril d'inscrire le récif corallien de l'Australie, de les désinscrire en fait de l'UNESCO, eh bien il y a eu une réaction en janvier là récemment, en janvier 2022, de dégager 700 millions de dollars australiens pour faire quoi? C'est ça qui est important, c'est pas tant d'avoir de l'argent, c'est qu'il faut faire à l'échelle globale, comme le disait Laetitia, mais à l'échelle locale aussi, diminuer les intrants, sensibiliser les populations, mais les Australiens sont sensibles à leur propre
peut-être aussi
récif.
Réguler le tourisme hein, ou pas?
Alors ils le font aussi, ouais. mais tout ça ça n'est pas que des petites actions locales, c'est vraiment à l'échelle globale, parce que connaissant bien les Australiens aussi, on a beaucoup de collègues australiens qui sont déprimés de voir ça, mais chacun essaye de faire la politique des petits pas chez soi, mais aussi, on a vraiment une action globale à faire, il n'y a rien à faire.
Alors heureusement, on a quand même des bonnes nouvelles, Laetitia Edouin, où vous êtes à Tahiti, puisqu'on a découvert à 172 mètres de profondeur un corail particulier, on va en parler dans un instant, après ce court reportage de France 24, tourné en janvier dernier sur place avec l'explorateur Julien Barbert de l'UNESCO et le photographe explorateur Alexis Rosenfeld.
On part dans un monde inexploré, explorer l'inexploré, et voilà, c'est assez... C'est assez motivant et grisant.
30 à 40 mètres plus bas, le spectacle est grandiose. Des coraux immenses en forme de rose s'étendent sur au moins 3 km. Ce récif, beaucoup plus profond que les autres, semble intact.
Seulement 20% de l'ensemble des fonds marins sont cartographiés en haute résolution. C'est incroyablement peu quand on pense qu'on a une meilleure image de la Lune ou de Mars.
Alors, Laetitia Eloin, c'est le récif corallien de l'espoir, on pourrait dire presque.
Alors, c'est pas le récif corallien d'espoir, mais l'exploration qu'on a aujourd'hui du récif dans ses profondeurs, c'est-à-dire en dessous de 30 mètres, nous montre qu'il y a toute une vie récifale qui s'y développe et qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Et c'est vrai que quand on plonge jusqu'à 40-50 mètres, on part de la surface à 6 mètres où le récif a été dégradé par l'épisode de blanchissement de 2019. On a beaucoup d'algues, beaucoup de corail mort. On va avoir 10-15% de corail vivant. Et on va descendre le long de la pente récifale et vous arrivez à 40 mètres et vous avez 70% de corail vivant. Donc c'est vrai que vous découvrez un nouveau récif, insoupçonné en quelque sorte, et on pense qu'il est resté protégé du changement climatique parce que justement il est localisé plus profond, parce que les eaux elles sont un peu plus froides, elles sont aussi plus variable, donc en quelque sorte, il est plus à même d'expérimenter des augmentations de température et aussi, il a beaucoup moins de lumière qui pénètre. Parce que plus on va aller dans les profondeurs du récif, plus la lumière en diminue. Et ce qu'on sait, il y a des expériences qui ont été faites en aquarium, c'est que le blanchissement, il est dû à une augmentation de la température et à de fortes intensités lumineuses.
Ce qui veut dire...
Donc dans les profondeurs du récif, les coraux sont en quelque sorte plus protégés parce qu'ils ont moins de lumière.
Ce qui veut dire, Laetitia Edouin, que ça vous ouvre potentiellement une porte pour d'autres découvertes et donc d'autres explorations?
Oui, alors du coup, on a continué à explorer cette zone en dessous de 30 mètres. Et finalement, souvent, plus on explore entre 30 et 45 mètres de profondeur, et bien finalement, à chaque fois, on va quasi découvrir des récifs où le recouvrement corallien est plus élevé qu'en surface. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que déjà, ça donne quand même de l'espoir sur les récifs coralliens et que c'est des zones qu'on connaît très peu, on connaît moins d'un tiers de ces récifs. Il y a des études récentes qui ont montré qu'ils pouvaient contribuer à plus de 50% en termes de surface du récif corallien. Donc aujourd'hui, on a en quelque sorte une vision un petit peu biaisée du récif corallien, qui est vraiment un récif corallien de surface, parce qu'on avait longtemps considéré que comme le corail est cet organisme qui vit en symbiose avec cette algue, elle avait besoin de lumière, ouais. Donc forcément, elle devait vivre entre 0 et 30 mètres.
Pascal Joanneau, c'est quand même étonnant, parce que ça se passe sur notre planète Terre, quand même, ça, hein, et c'est encore des découvertes assez récentes, finalement.
Oui, et puis il faut rajouter aussi qu'on avait beaucoup moins de moyens techniques pour descendre profondément. Mm-hmm. Donc, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore de ce qui se passe sous l'eau, même en très grande profondeur, bien sûr.
On est à 170 mètres, c'est pas non plus les abysses, quoi.
Voilà, hein. ce ne sont pas les abysses.
Est-ce qu'il y a un problème de moyens, du coup, Pascal Joanneau? Je veux dire, il y a des moyens aujourd'hui, alors on ne va pas opposer les disciplines, bien sûr, mais il y a énormément de moyens pour aller, on le dit souvent, explorer les exoplanètes, etc. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait même pas ce qu'il y a sous nos pieds. Est-ce qu'il y a un petit problème par rapport à ça?
Évidemment, ce n'est pas une scientifique qui va dire qu'on a trop de moyens. On manque toujours de moyens. Je pense que Laetitia pourra en parler. La preuve, c'est qu'on lance des programmes qui ne sont pas forcément des programmes financés par...
Mais qui font appel aux
citoyens. Hein. On a lancé un programme avec l'IFRECOR et la Fondation de la Mer qui s'appelle SOS Corail pour essayer de faire financer des programmes. Alors pas spécialement de recherche. Là, ce dont parle Laetitia, c'est vraiment de la recherche fondamentale, mais des programmes de financement participatif.
Eh ben, on va en dire un petit mot pour voir comment, en tant que citoyen, on peut peut-être aussi aider à la préservation des coraux. Ce sera la dernière partie de notre discussion après l'aventurier Jacques Dutronc sur France Inter.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota,
et des calculs à Calcutta. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas me raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à l'eau, j'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et Malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier.
Et Jacques Dutronc sur France Inter. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
France Inter. La Terre au carré.
Deux aventurières avec nous, deux plongeuses dans les récifs coralliens du monde entier, Laetitia Edouin en duplex de Tahiti et Pascal Joanneau avec nous en studio.
Laetitia Edouin, vous parliez tout à l'heure d'une possibilité de perdre 70 voire 99% des coraux. Un monde sans corail, ça donne quoi?
Ben, un monde sans corail, ça veut dire qu'on va se retrouver avec plus d'un demi-milliard de personnes qui vont pas forcément avoir de revenus économiques, qui vont pas trouver de la nourriture pour eux et qui finalement aussi ne seront pas protégés par les vagues. Donc ça va vraiment être un monde où on va avoir des réfugiés climatiques dont il va falloir s'occuper. Et aujourd'hui, ça, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut vraiment éviter d'aller dans les scénarios catastrophes. Parce que ce serait trop triste, je veux dire, de perdre ce joyau. Et sachant que les récifs coralliens, c'est en gros un peu des porteurs d'alerte. Si on perd les récifs coralliens, on va perdre plein d'autres écosystèmes.
Oui, j'allais vous dire, il y a un impact sur la biodiversité. Ouais.
Voilà, c'est vraiment ça, en fait. C'est pour moi, les récifs coralliens, aujourd'hui, on communique beaucoup dessus. Ça nous permet d'alerter les gens. Mmh. Et si on arrive à sauver les récifs coralliens, eh bien, on préservera plein d'autres écosystèmes sur lesquels on communique beaucoup moins, mais qui sont tout aussi importants. Donc, si les récifs coralliens peuvent être un peu les porte-paroles, si ce qui arrive à la Grande Barrière permet de faire changer les mentalités, eh bien, il faut l'utiliser parce que cette mobilisation servira à d'autres écosystèmes.
Pascal Joanneau, justement, mobiliser les citoyens pour aider à préserver le corail, ça se passe concrètement avec des scientifiques comme vous ou comme Laetitia Edouin. Qu'est-ce que vous demandez alors aux citoyens?
Alors, ce qu'on demande aux citoyens, donc on a mis en place un réseau entre l'IFRECOR et la Fondation de la Mer, et en fait, via les comités locaux dans chaque collectivité d'outre-mer, on a lancé un appel à projet. Les gens répondent, alors ça peut être des associations, il y a quelques organismes.
Mais qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Et on demande des projets, soit pour innover, soit pour mieux connaître les récifs coralliens, soit pour sensibiliser.
Doivent faire quoi?
Alors, pardon, les citoyens, ils doivent nous aider à financer.
Ah d'accord. Donc.
Voilà. Mais ça, c'est pas de la science participative, ça.
Ah non, vous vouliez que je parle de la science participative.
Mais oui, alors 40 secondes, oh là là. C'était l'objet de ma question.
Donc, pardon.
Qu'est-ce qu'on demande à un citoyen, concrètement? C'est de faire du comptage? C'est de trouver
alors,
des solutions
du suivi,
pour
il y a
du jardinage
ah, j'aime pas trop le jardinage,
corail.
Parce que sinon, ça va, ce sont des animaux. Et donc, en fait, dans la science participative, c'est par exemple des financements qu'on a eus pour que des bénévoles viennent suivre les récifs coralliens, compter, donner l'état de santé du récif corallien, souvent ce sont des plongeurs. Mmh. Et on a par exemple un joli programme en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle L'Œil. Et l'idée, c'est un programme qui est mis en place avec les coutumiers de Nouvelle-Calédonie pour faire le suivi de l'état de santé de 9 récifs en Nouvelle-Calédonie.
Illustration d'une participation possible des citoyens.
Voilà. Allez sur soscorail.org.
Merci beaucoup à toutes les deux. Laetitia Edouin, Étonnant Récif, c'est paru au CNRS édition.
Et bonne nuit Laetitia.
Bonne nuit, parce qu'il est presque 3h du matin. Et Méloé ou les fantastiques aventures d'une goutte d'eau, vous signez ce livre Pascal Joanneau. Voilà, il vient de sortir.
Édition Solaris. En Nouvelle-Calédonie.
Merci à toutes les deux.